Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette rubrique éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lenz. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Fondation Napoléon et auteur de plusieurs ouvrages sur le Consulat et l'Empire, dont la nouvelle histoire du Premier Empire en 3 tomes qui est paru chez Fayard. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'émissions sur la guerre espagnole de Napoléon, vous nous présentez la journée du 4 mai 1808, appelée souvent le guet-apens de Bayonne. Donc, on va peut-être resituer
oui.
tout ça.
Oui, bien sûr. On l'appelle le guet-apens ou la souricière de Bayonne, ce qui est aussi un nom assez, assez joli. C'est une opération menée par Napoléon Ier qui consiste à s'emparer de l'Espagne sans tirer un coup de fusil, sans perdre un seul homme, et avec l'accord des souverains espagnols qui sont justement autour de lui à Bayonne.
Oui, puisqu'il les a fait venir dans des circonstances qui sont quand même pas très glorieuses finalement.
Ah, elles ne sont pas très glorieuses, bien sûr, mais vous savez, c'est dans ces opérations politiques, ces coups d'État, en général, il faut faire preuve de décision et ne pas avoir trop de morale. Tout ça vient du fait que la dynastie espagnole se déchire depuis plusieurs années entre le père, Charles IV, qui est le roi légitime, et son fils, le prince des Asturies Ferdinand, qui prendra le titre de roi sous le nom de Ferdinand VII, à la suite d'émeutes qui ont lieu au début de 1808, Charles IV abdique en faveur de son fils, qui devient Ferdinand VII. Mais Napoléon, qui est le meilleur allié des Espagnols à ce moment-là, n'accepte pas cette abdication.
Ouais, lui a d'autres projets pour l'Espagne.
Il a d'autres projets pour l'Espagne. Il demande donc à Charles IV de venir le rencontrer à Bayonne. Alors Napoléon monte très très vite un voyage officiel dans le sud-ouest et puis il s'arrête à Bayonne, au château de Marac, et le roi Charles IV le rejoint. Et puis, quelques jours plus tard, accompagné par le général Savary, l'homme des basses œuvres de Napoléon, arrive Ferdinand VII, qui a été un petit peu emmené de force au-delà des Pyrénées. Savary lui disait que Napoléon viendrait le voir en territoire espagnol, puis finalement, arrivé à la frontière, il lui dit « Ah, pas après tout, on n'est plus à ça près, il faut faire les quelques kilomètres qui vont à Bayonne. » Ce qui fait que, comme dans les tragédies, tout le monde est réuni à Bayonne.
Même le fameux Godoy, qui avait été arrêté, emprisonné. Tout le monde voulait sa peau, lui aussi.
Napoléon invite tout le monde à Bayonne parce qu'il va, comme empereur d'Occident, comme nouveau Charlemagne, il va exercer son arbitrage entre Charles IV et Ferdinand VII.
Voilà, parce que quels sont ses projets pour la couronne espagnole ?
Alors, quels sont les projets de Napoléon pour la couronne espagnole ? Ils sont évidemment de la régénérer, comme il dit lui-même, mais évidemment, cette régénération passe par un changement de dynastie. Et en l'espèce, Napoléon Ier joue les Louis XIV, c'est-à-dire que, à la différence que lorsque Louis XIV a placé son petit-fils sur le trône d'Espagne, il n'y avait pas de roi d'Espagne. Or là, il y en a deux. Charles IV et Ferdinand VII. Alors Napoléon leur fait savoir immédiatement qu'il ne reconnaît pas l'abdication de Charles IV, donc il veut garder Charles IV, ça c'est la première étage de la fusée. Et lorsque Ferdinand arrive à Bayonne, on lui rend les honneurs princiers et non les honneurs royaux, et lorsque il se déplace avec son père au roi Charles IV, on donne les honneurs royaux, et au roi Ferdinand VII, on donne que des honneurs princiers. Donc déjà, c'est une indication que Napoléon n'accepte pas cette abdication, parce qu'il s'est toujours bien entendu avec Charles IV, qui est un roi un peu faible, donc c'est beaucoup plus facile. Mais en réalité, Napoléon a un projet de troisième homme, en quelque sorte.
Voilà, dès le départ, finalement.
Dès le départ, parce qu'il imagine, bien à tort, que l'Espagne est un pays qui l'attend.
Oui. Bon, alors donc le troisième homme, on peut le dire,
oui, c'est son
frère Joseph,
oui,
qui occupait le trône de Naples, où Napoléon avait déjà d'ailleurs
chassé les Bourbons.
Il recommence une seconde fois, et donc il veut ce trône d'Espagne pour son frère Joseph.
Voilà.
Là, on comprend en effet les réticences du peuple espagnol à voir l'empereur français intervenir dans leurs affaires. Et c'est en effet avant tout la preuve aussi de la vision archaïque que Napoléon avait pour ce peuple. Et les Français en général.
Et les Français en général. Napoléon a pour l'Espagne les sentiments de son temps. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle, on considère que l'Espagne est décadente. On considère que les nobles espagnols ne sont bons qu'à jouer de la guitare sous les balcons, que le paysan est entièrement soumis, comment dire, aux préjugés de la religion, et ainsi de suite. Et tout ça s'exprime dans une littérature continue. Le Barbier de Séville en est un bel exemple, mais cette littérature qui montre l'Espagne comme un pays dégénéré est constante. À cela s'ajoute la mainmise économique totale de la France sur l'Espagne. Parce que l'Espagne est un pays très endetté, mais la France prête beaucoup d'argent, les banques françaises sont chez elles à Madrid, parce qu'on imagine que l'Espagne est très riche en raison de l'or et de l'argent d'Amérique du Sud. Et puis, avec tout ça, il y a encore donc la faiblesse de cette monarchie, qui fait que Napoléon, qui a envoyé des espions en Espagne, reçoit des rapports extrêmement rassurants, disant « mais tout le monde vous attend, le peuple vous attend », et ainsi de suite. Et donc, Napoléon, bien sûr, demande à ses conseillers, Talleyrand le pousse évidemment à la conquête de l'Espagne.
Alors là, c'est aussi le rôle de Talleyrand dans l'affaire
et a
été beaucoup
critiqué. Mais
Napoléon
ne demandait qu'à être convaincu. C'est-à-dire que, on connaît Napoléon, c'était un homme qui avait son idée et qui n'aurait pas, en tout cas plus à ce moment-là, reculé parce que des conseillers lui auraient déconseillé de le faire. Alors comme Talleyrand tient à ses plumes, tient à ses pensions et attend des jours meilleurs, après tout, il a senti que Napoléon voulait qu'on lui dise d'aller en Espagne, donc il le lui dit, puisque de toute façon, il y serait allé.
Et donc, Napoléon arrive en Espagne en conquérant, voilà. Pensant que le peuple va être
ravi
à ses
de le
pieds,
voir,
voilà.
Oui.
Et finalement, c'est autre chose qui se produit. Et la première phase, c'est donc cette journée de Bayonne, ce guet-apens de Bayonne, où la famille royale se retrouve prisonnière. Il les oblige à abdiquer.
Il les oblige à abdiquer parce que, entre-temps, est arrivée à Bayonne la nouvelle de l'émeute du 2 mai à Madrid, donc, que nous avons abordée dans une autre émission. Et au moment où cette nouvelle arrive, Napoléon feint une grande colère. C'est-à-dire, publiquement, il est très en colère, mais on a sa correspondance. Or, dans sa correspondance, il n'est absolument pas en colère. Il félicite Murat de la vigueur avec laquelle il a réprimé l'émeute, mais il entre donc chez Charles IV en lui disant « Voilà, ce sont les partisans de votre fils, donc de Ferdinand, qui ont assassiné les soldats français, je ne le tolérerai jamais, et jamais je ne reconnaîtrai un roi qui a fait tuer des soldats français. » Alors Charles IV et sa femme appellent Ferdinand, et il y a une scène absolument hallucinante où le père lève la main sur son fils, la mère réclame qu'on le fasse monter à l'échafaud, enfin bref, une scène extrêmement pénible pour les familles, mais qui doit être, sur le plan politique, qui est extrêmement intéressante pour Napoléon, puisque là, il est sûr que même Charles IV vient de reprendre son abdication.
Oui, alors donc Charles IV, lui, finalement, abdique à nouveau le trône qu'il avait déjà abdiqué
fois. Oui, oui.
Ferdinand VII lui montre un peu plus de résistance.
Il montre un peu de résistance, mais une journée de plus, si vous voulez, hein, puisqu'on arrive après le 4 mai, on signe un traité. Alors, un traité dans lequel Charles IV remet à Napoléon, empereur des Français, tous ses droits sur la couronne d'Espagne et des Indes. Donc, c'est véritablement, c'est même plus une abdication intérieure. Il abdique et puis il appelle Charlemagne à l'arbitrage, en quelque sorte. Et puis, Ferdinand, il met un ou deux jours pour le faire, mais il le fera aussi, il va signer, parce que tous ces gens, et je prie les auditeurs espagnols de bien vouloir m'en excuser, mais enfin, toute cette dynastie des Bourbons, à ce moment-là, fait un peu fin de race quand même, et on n'a pas affaire à des gens qui sont ni très très courageux, ni très fin politique.
Oui, alors que va faire Napoléon de la famille royale? Que va-t-il en faire?
Eh bien, la famille royale, il va la traiter somptueusement, on va donner des pensions à tout le monde, on va les loger partout, et puis il a même une sorte d'ironie, Napoléon, puisqu'il décide d'affecter comme résidence à Ferdinand le château de Valençay,
qui est
la résidence de Talleyrand. Donc Talleyrand va se retrouver pendant 5 ou 6 ans avec, sur les bras, si l'on peut dire, Ferdinand, qu'il faudra surveiller, mais qu'il va lui aussi lui falloir amuser,
nourrir, etc. Tout à fait. Alors, le guet-apens de Bayonne aussi pose la question de l'enjeu et de la légitimité de la guerre en Espagne. Puisque dès le départ, un des problèmes, c'est que Napoléon n'a pas de vraie raison de conquérir l'Espagne.
Oui, oui.
C'est un enjeu purement dynastique.
C'est un enjeu, là pour le coup, purement dynastique, que Napoléon évidemment réussit à camoufler par de l'idéologie. Les premières mesures qui sont prises par les Français sont extrêmement positives. Abolition de la féodalité, fin de l'Inquisition, égalité, etc., etc. Mais je dirais qu'à ce moment-là, le soulèvement a déjà eu lieu. Enfin, il est déjà en cours. Et donc, l'alibi de libération des peuples ne tient pas tellement. C'est c'était véritablement la nomination de Joseph Bonaparte que recherchait Napoléon. Alors, pourquoi Joseph ? D'abord parce que Louis a refusé, ouais. L'autre frère, et finalement il valait mieux parce que l'expérience Louis sur le trône de Hollande n'a pas été une très très grande réussite. Mais pourquoi Joseph ? Pour plusieurs raisons. Probablement parce que Joseph est très capable, que Joseph est véritablement un homme des Lumières, sans doute pas un grand souverain, mais au moins un homme intelligent et qui a un certain sens de l'État. Et puis la deuxième chose qu'on oublie parfois, c'est qu'en mettant Joseph en Espagne, on lui impose en quelque sorte le même traité que celui qui avait été signé par Louis XIV avec Philippe V, c'est-à-dire qu'il renonce à ses droits sur le trône de France. Or, en droit napoléonien, c'est possible. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande discussion entre les Anjou, les Orléans, etc., parce que les lois fondamentales du royaume ne permettent pas de renoncer à la couronne. Mais les lois napoléoniennes, si je puis dire, qui sont des lois écrites, statutaires, elles permettent, dans un certain cas, à la fois de renoncer à la couronne, d'autres fois de s'en voir privé par le chef de famille. Et là, on résout enfin ce problème de Joseph Bonaparte, qui n'a jamais accepté de renoncer à ses droits, dit-il, évidemment des droits tout frais, mais des droits quand même sur le plan constitutionnel. Et là, on a réussi en quelque sorte à régler aussi ce problème-là, ce qui ouvre le champ à l'adoption du fils de Louis, le deuxième, hein, pas le premier puisqu'il vient de mourir, ou alors à une solution dynastique napoléonienne.
Voilà. Mais d'ailleurs, le grand déçu dans l'affaire, c'est aussi Murat, qui lui avait été nommé lieutenant de l'empereur à Madrid, occupait Madrid, et qui voit la couronne d'Espagne lui passer sous le nez.
Oui, alors là totalement.
Alors que c'était un des personnages, il faut le rappeler, quand même majeur de l'Empire à ce moment-là.
Enfin. Oui, alors on s'est toujours un peu moqué de Murat en disant oui, il a voulu être roi d'Espagne. Puis c'est vrai que quand il l'apprend, surtout Murat fait une jaunisse, donc vous voyez comme vraiment quelqu'un qui est très déçu. Mais en réalité, quand on se met à la place de Murat, toute la famille Bonaparte est sur des trônes importants. Le fait que Joseph soit à Naples à ce moment-là, c'est un royaume très important en Europe. Murat, lui, il est grand-duc de Berg. Alors on lui a fait un duché qui est assez vaste, etc. Mais enfin, c'est quand même un petit truc. Donc, comme il est de la famille, comme il est marié à Caroline Bonaparte, c'est pas stupide de sa part d'avoir pensé qu'il pourrait être roi d'Espagne. Et Napoléon, d'ailleurs, ne l'a pas démenti jusqu'au dernier moment. Et c'est justement après qu'il ait un petit peu sauvé l'armée au moment du 2 et 3 mai, après qu'il ait un petit peu pacifié les alentours de Madrid, qu'il apprend que c'est Joseph qui est nommé. Donc il fait une jaunisse, et c'est pas la première fois. Hein. Murat a fait beaucoup, beaucoup de jaunisse dans sa vie au moment des déceptions.
Oui, tout à fait. Et autre chose, c'est que quelque part, cette guerre d'Espagne, Napoléon va au-delà des frontières naturelles de la France. Tout ça est mal perçu aussi en côté français.
Bien sûr. C'est, si vous voulez, la guerre d'Espagne confirme une chose, c'est que Napoléon n'est pas l'héritier des premiers principes de la Révolution. Il n'est pas l'héritier de la Révolution qui a proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On en a ici une preuve. Il n'est pas l'héritier de la Révolution qui a voulu que les Gaulois soient bien à l'aise et bien calés dans leurs frontières naturelles. Ça fait longtemps que la France a dépassé le Rhin, que la France a dépassé les Alpes, avec l'annexion de l'Italie du Nord, et maintenant elle dépasse les Pyrénées. Napoléon est l'héritier de la deuxième période de la Révolution, c'est-à-dire celle du Directoire, où les armées de la République ont dépassé les frontières naturelles et où on a commencé à occuper les pays pour les rattacher ensuite à la France, alors même qu'ils étaient au-delà des frontières naturelles. Et je dirais même que la création de tous ces royaumes, c'est un peu à l'époque de la République, on créait des républiques sœurs, à l'époque de l'Empire, on créait des royaumes frères en mettant les frères sur les trônes environnants.
Voilà, bah écoutez, merci. On s'est un peu éloigné du guet-apens de Bayonne, mais voilà. Ce guet-apens de Bayonne, je le rappelle, qui marque donc l'abdication forcée de la famille d'Espagne par Napoléon. Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Au revoir, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour une autre émission.